être avec vous. C'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment bien. Le Seigneur m'a donné, bon, je me présente, David Porter, ma femme et moi, nous avons été pasteurs aux États-Unis dans deux églises différentes, la dernière au Texas. Et puis, nous sommes partis en 1982 pour être missionnaires en Europe, en passant par Albertville en France pour apprendre le français. C'est pas évident le français, c'est la langue de l'éternité, le français. Parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre, bien l'apprendre. Puis nous sommes allés au petit pays de Luxembourg pour implanter des églises. Là, un pays où je crois qu'il n'y avait pas d'église de pentecôtistes qui s'exprimait dans une langue où tout le monde comprenait dans tout le pays. Alors on a travaillé là, on est attaché au Luxembourg pendant 20 ans, et puis nous sommes allés en France pour 15 ou 16 ans, je ne me souviens plus, ça devient long maintenant. On a aidé avec l'implantation de quelques églises, mais surtout on était dans l'équipe pastorale de Reims, et l'église de Créteil, qui est la région parisienne. Mais plus que tout ça, on a fait l'évangélisation presque partout en France. Alors je crois que j'ai prêché dans 100 églises en France, et des fois 50 fois dans la même église. Ma femme et moi, on a fait des conférences, les séminaires de mariage. Alors vous les maris, excusez-moi, vous les femmes, si vous voulez que je mette votre mari en place, vous me dites après la réunion, je suis bien capable. Et vous messieurs, si vous voulez que je mette votre femme en place, oubliez ça, je ne suis pas si stupide que ça, j'ai mes propres problèmes. Mais enfin. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, on a travaillé avec un ministère qui s'appelle leparcours.net en français pour l'évangélisation et l'édification sur Internet. Et puis, depuis quelques années, on vient assez souvent au Canada pour prêcher, pour partager la parole de Dieu. Et je suis très, très, très content d'être là ce matin. Je me sens à la maison. C'est bizarre, on peut être ici, au Luxembourg, en France, en Belgique, même en Afrique, j'ai prêché. Quand on est avec le peuple de Dieu, on est à la maison, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, juste avant que je prêche, j'ai une petite page publicitaire. J'envoie chaque semaine à plusieurs milliers de personnes une pensée de la semaine qui s'appelle « Tasse de café ». Alors, « Tasse de café », parce que chaque matin, quand j'allais à mon bureau là, je prenais d'abord, je passais par la cafetière, parce qu'il y a quelque chose de spirituel dans le café. Vous avez remarqué? Avant le café, je ne suis pas du tout spirituel. Après le café, je suis l'apôtre Paul. Mais en passant par le cafetière et puis en allant dans mon bureau, ma femme m'a dit, David, je peux te suivre jusqu'à ton bureau avec des tasses de café par terre. Et je me dis, mais c'est quand même souvent le Seigneur me parle à ce moment-là. Alors je me dis, peut-être il y a quelque chose dans les tasses de café qui sera bien pour une pensée de la semaine. Alors normalement c'est une petite histoire ou bien souvent de l'humour, mais surtout des choses spirituelles. Parce que moi je trouve que l'humour, c'est une porte qui s'ouvre pour qu'on puisse dire des choses très très sérieuses derrière ça, sans être méchant, hein? Parce qu'il faut, et ce n'est pas l'humour qui est le but, c'est ce qui suit l'humour, mais ça aide aussi. Alors, si vous aimeriez la voir, on va commencer. Sœur, vous pouvez m'aider, peut-être vos frères, ok? Commencez juste là. Alors, ça va prendre un peu de coordination. Vous le prenez, si ce n'est pas nécessaire, mais si vous le voulez, vous me donnez votre nom et votre adresse e-mail, ok? Votre adresse postale, ça ne marche pas, mais votre adresse e-mail. Écrivez-le lisiblement. Je me répète. Écrivez-le lisiblement. Parce qu'il y a des Canadiens, des Québécois, des Acadiens. Qu'est-ce qu'on appelle les gens d'ici? Oui, il y a ça. Qui écrivent en chinois, en arabe. Et j'arrive pas. Alors, si ça ne vient pas dans votre boîte email, il faut faire attention que votre écriture est nulle. non, c'est pas ça. Mais enfin, et dites aussi à votre truc de spam là que ça vienne, ça s'appelle Tache de café, et vous aurez ça gratuitement. Alors, le frère m'a dit que normalement, vous finissez avant 15 heures, et je vais essayer de toutes mes forces, on verra. Parce que j'ai dit à quelqu'un, j'ai déjà eu 2 tasses de café, il voulait me donner un autre, mais c'est 1 heure pour chaque tasse de café. Et déjà, c'est loin, c'est pas vrai. Sophonie, chapitre 3, on va lire à partir de verset 16. Sophonie, chapitre 3. Partir de verset 16. Et merci beaucoup pour l'accueil. Oh là là, vous êtes gentils comme tout. Et vous avez envoyé la sœur France et la sœur Lucille pour me ramener ici. C'est un séminaire de leadership et elles m'ont bien l'idée jusqu'ici. Elles sont bien, ces sœurs. Oui, je croyais avec la sœur France et je suivais un avion de chasse, mais nous c'est pas vrai. Elle était très, très bien. Très bien. Alors, un peu le contexte de Sophonie. C'est l'époque de Josias, un bon roi, mais le pays était tellement, tellement méchant qu'il y avait vraiment de la punition qui était juste devant eux. Mais le prophète y voyait un jour où il y aura au moins les gens qui n'étaient plus arrogants, qui n'avaient plus cette mauvaise cœur, mais au moins, ils allaient avoir le cœur humble et ouvert à l'action du Saint-Esprit, et Dieu allait faire quelque chose par un héros qui sauvait. Et en verset 16, Sophonie, c'est la page 718. OK. En ce jour-là, on dirait à Jérusalem, « Ne crains rien !» Sinon que tes mains ne se faiblissent pas, l'Éternel ton Dieu, écoutez bien, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi, il y a quelqu'un qui connaît les chants, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre ne reste plus, l'opprobre pèse. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Dans tous les pays où ils sont en opprobre, en ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, et car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole. Père, merci pour le fait que tu nous aimes. Des fois, ça nous dépasse. Mais ta façon de nous aimer, c'est sûr que ça nous dépasse. Tu nous aimes à la folie. Et pour nous, qui nous connaissons tellement bien, c'est seulement une révélation du Saint-Esprit qui nous communique ça. Mais Seigneur, s'il te plaît, ce matin, montre-nous à quel point, révèle-nous à quel point tu nous aimes. Et puis, Seigneur, que nous soyons un conduit, une rivière, Seigneur, qui amène cet amour aux autres qui ont besoin de Jésus. Amen. À un moment donné, j'ai donné un cours biblique sur les petits prophètes à l'école biblique de Bruxelles, Continental Theological Seminary. Eh bien, il m'avait demandé d'enseigner les petits prophètes. OK? Et j'avais déjà plusieurs fois lu les petits prophètes. Et je savais que c'était, oh, yeah, yeah. Je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai perdu le loto ou quoi? Parce que les petits prophètes sont souvent les gens de Dieu, le peuple de Dieu est rebelle, est idolâtre, s'éloigne dans le péché. Et Dieu dit, écoute, reviens, ils ne reviennent pas, ils sont têtus comme des mules. Et il dit, écoute, si tu ne reviens pas, il y aura une punition. Et ce n'est pas très gai, une partie. Bon, au moins, je pensais. Mais je trouvais, en enseignant ce cours, une révélation de l'amour de Dieu que je n'avais jamais eu auparavant. On osait, quand Dieu dit, moi je suis comme un homme qui a été trahi par sa femme, mais il l'aime quand même tellement qu'il va pour la racheter de nouveau. Il me montrait un Amos, un homme qui intercède pour un pays qui mérite la punition, mais à cause de l'intercession du prophète qui est le symbole de Jésus-Christ, ils sont épargnés. Et voilà, ici en Sophonie, la première partie de Sophonie, c'est tout ce que j'attendais des petits prophètes. Tu es têtu, tu es rebelle, tu es ceci, tu es cela, et la punition va tomber, etc., etc. Et oh là là, on y va. Mais, tout d'un coup, je suis tombé sur ces versets-là, et j'ai eu une révélation de l'amour de Dieu. Attention, je ne dis pas ça à tout. Il y a des gens qui ont des révélations pour le petit déjeuner, des visions pour le dîner et pour le souper. Ils ont des grandes choses, hein? Des rêves. Vous savez, moi, plus je prends un peu d'âge, je trouvais quelque chose. Je dis à quelqu'un, dans le temps, je me suis dit, le Seigneur a dit dans les derniers jours qu'il allait donner des visions aux jeunes hommes et des rêves aux vieillards. Et je me suis dit, pourquoi? Et je trouvais pourquoi. Parce que les vieillards, ils aiment bien des siestes. Et le Seigneur, il savait que s'il allait le parler, il fallait qu'il le fasse pendant qu'il dort. Alors, mais il y a des gens qui ont toutes sortes. Moi, je n'ai pas beaucoup de révélations comme ça. J'aimerais bien en avoir. Mais ici, c'est devenu une révélation à partir d'une chose drôle. Dans cette classe, on était en train de lire ce verset. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans cette classe, il y avait une fille de Paris, Céline. Elle dit, Céline, écoute, aide-moi avec mon français. Comment faire en français un transport d'allégresse? Et là, au beau milieu de cette classe, elle a fait « Wouh !» Alors, c'est une classe un peu spéciale, mais parce que Céline, elle était un peu spéciale aussi. Mais à partir de ça, mes amis, et ça, je ne blague pas, j'ai eu une révélation de l'amour de Dieu qui m'a bouleversé pendant des mois. Et j'avoue, ce n'est pas la première fois que je prêche ce message. C'est peut-être la 300e fois que je prêche ce message. Je ne blague pas, sérieusement. Pourquoi? Parce que des fois, le Seigneur me donne un message pour l'église locale, mais des fois, il me donne un message pour l'église avec le grand E, pour toute l'église. Et je crois que Dieu veut que vous entendiez ça, ici au Canada aussi, que Dieu vous aime, parce que quand elle a fait ça avec des transports d'allégresse dans mon cœur, dans mon imagination spirituelle, c'était comme je voyais Dieu, le Père qui était sur son trône, là, en train de se réjouir, debout en train de danser et crier, c'est mon enfant, alléluia. Bon, il dit pas alléluia parce que lui est Dieu, mais ceux qui crient Dieu, ils crient, hein? Amen. Je t'aime. Et c'est tellement difficile pour moi et peut-être pour vous de voir à quel point Dieu nous aime. Parce que moi, je me connais. Et je crois dans ma tête, je dois être là spirituellement et j'ai le sentiment d'être là. Et je m'efforce, je sais, mais je me dis, quand je serai là, Dieu, il va pleinement m'aimer. Non, non, il m'aimait quand je suis né de nouveau. Il m'aimait même avant que je sois né. Il nous aime, mes amis. Il y a un amour qui exprime le ciel. Mais pourquoi on ne le croit pas? Des fois, c'est maman et papa. Parce que, oh là là, soyez sages, ou Dieu, il va... On a l'image de Dieu avec, comme une vieillard avec la barbe blanche et les cheveux blancs sur le trône avec une éclair, le foudre dans chaque main. Et il nous dit, ah, j'ai vu ça. Il ne faut pas recommencer. Pour beaucoup de monde, c'est Dieu. Et pour même des fois, si on avait des parents qui étaient sévères, la discipline, c'est excellent. Mais la discipline sans l'amour, ce n'est pas excellent. Ce n'est pas excellent. Et on a cette idée de Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ça, c'est plutôt la religion. Parce que Dieu nous a créés pour être avec lui. Oui, nous ne voulons pas pécher. Oui, nous ne voulons pas faire de bêtises. Mais mes amis, je vous dis que Dieu vous a créé, il m'a créé parce qu'il nous aime, parce que nous sommes précieux pour lui. Mais il y a aussi cette idée, un problème à la télé. Vous savez quoi? Si vous êtes content de vous-même, il y aura un grand crash économique au Canada. Et je vous dis pourquoi. Un jour, je regardais la télé. Et je vois un ado là, qui a un point au visage. Il va, dans cette publicité, il va dans une fête, quelque sorte. Il n'y avait personne qui voulait lui parler, parce que lui, il avait un point au visage. Oh, c'est terrible! Alors il était triste comme tout, il revient à la maison. Mais heureusement pour lui, il voyait une publicité d'une crème et il a acheté cette crème, il a mis sur le point, le point est parti et il est revenu à notre fête et tout le monde, les filles aimaient, tout le monde aimait. Et quelle est l'idée là? Si tu as un point au visage, achète notre crème. Mais aussi, l'idée, c'est si tu as un point au visage, personne ne t'aime. Il faut acheter notre truc. Et comme ça, ça sera bien. Et moi, je me suis dit, c'est la pub le plus bête que j'ai jamais vue de ma vie. Jusqu'au jour, je vois une autre pub. Et dans cette pub, il y avait une femme d'un certain âge. Évidemment, elle était veuve. Et là, et ses amis... d'un certain âge, ils ont dit, écoute, on va manger ensemble, viens avec nous. Mais elle ne voulait pas aller. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait des taches brunes sur la main. Ah, des taches brunes! Et elle couvrait les taches. Non, j'y vais pas. Mais, moi, je croyais que les taches brunes étaient bien. Je ne savais pas que c'était mauvais jusqu'à ce que je vois cette pub. Hein. Mais là, je vois, elle achète une crème ou je ne sais pas, un produit. Elle a mis ça sur les taches brunes. Ça enlevait toutes les taches brunes. Elle allait avec ses amis. Sa vie a changé pour le bien à cause de ce produit. Et je me suis dit, c'est la pub la plus bête que j'ai jamais vue de ma vie. Jusqu'au jour où je vois une tache brune sur ma main. Et je me suis dit, où puis-je m'acheter un peu de ce truc-là? Et vous voyez, si vous êtes content de vous-même, des usines qui fabriquent le produit pour enlever la tache brune, enlever les points du visage, ils vont faire faillite. Et il y aura du chômage, ce sera terrible, et ce sera votre faute à vous. Mais vous voyez, toute notre société de consommation est basée, il faut consommer. Il ne faut pas que tu sois content de toi-même. Il faut que tu te ressembles à cette personne à la télé, belle. Alors, pour être comme elle, bon, il faut quand même rester quoi, 2 heures avec le maquillage, et chez la coiffeuse et tout ça. Écoute, ce n'est pas réel ça, c'est une image. Mais cette image nous rend malheureux et nous croyons, si nous ne sommes pas comme ça, nous ne serons pas populaires, ne seront pas aimés. Ou bien, maman et papa qui disent, à l'école, mais qu'est-ce que vous faites à l'école, là? Comme moi, j'étais à l'école, j'étais parmi les meilleurs, et toi, tu... Mais écoute, vous, les jeunes, c'est pas vrai. Ils sont en train de mentir, vos parents. Ils étaient exactement par-dessus comme toi, quand ils étaient à l'école. Mais, de toute façon, sont nos parents. Parce que, et c'est bien, parce que les parents, ils veulent que tu sois excellent. C'est bien, on vous encourage. Mais, on a cette idée. Si je n'arrive pas, personne ne va m'aimer. Et surtout pas Dieu. Parce que Dieu est parfait. Et puis, on a en nous, surtout avant de connaître le Seigneur, cette idée. Mais je suis pécheur, je suis loin de Dieu. Et ça, ce n'est pas mauvais, parce que ça peut nous mener à la repentance. Ça peut nous mener à la repentance. Mais sinon, quand on vient au Seigneur, il faut réaliser, mes amis, que vous êtes enfants de Dieu et vous êtes déjà aimés. Oui, on n'est pas encore parfait. Mais combien d'entre vous, je vais commencer une guerre maintenant, mais combien d'entre vous, vos enfants sont parfaits, ils ne vous embêtent jamais, vos enfants. Laisse-moi voir votre main. Oui. Alors, vous me prêtez vos enfants, parce que mes enfants, des fois, ils sont casse-tête. Oui. J'ai presque dit casse-pied. En France, on dit quand on est casse-pied, c'est vraiment, ils vous cassent les pieds. ils vous donnent des troubles, les problèmes. Non, mais vous voyez, mes amis, il y a toujours cette chose. Dieu, il ne peut pas m'aimer. Il ne peut pas m'aimer. Il ne peut pas m'aimer. Ce sens de péché, d'éloignement de Dieu. Laisse-moi vous dire, il y a une cure, mais encore plus quand vous venez au Seigneur. Dieu veut que vous sachiez à quel point il vous aime. Et on va voir ça dans juste un moment, parce que c'est vrai. Dieu vous aime. Et pas seulement un peu, et pas seulement quand vous êtes parfait. Dieu vous aime à la folie. Son amour dépasse l'imagination et vous aime. Et là, il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Vous savez, ça c'est la nature de Dieu. Il veut sauver ceux qui sont perdus. Il veut ramener les captifs. Là, c'est pour cela que Dieu était en Jésus-Christ à la croix. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, était à la croix. En mourant pour vos péchés. Vous imaginez la douleur, la chose terrible de la croix n'était pas seulement les clous dans la main, ce n'était pas seulement la souffrance qu'il a supportée, mais la souffrance la plus grande, c'était le poids du péché qu'il portait, mes péchés et tes péchés. Quelqu'un devait souffrir pour nos péchés autrement. Nous aurions souffert éternellement en enfer. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne voulait pas. Il a envoyé son propre fils, Jésus, qui veut dire l'Éternel sauve. Sa nature est de sauver. Il a dit, je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus. Il est venu pour sauver. C'est un sauveur. Alléluia! Et mes amis, quand il nous sauve, il ne le fait à moitié, il ne fait pas à moitié, il fait à 100%. Vous devenez l'enfant du Seigneur, pardonné de vos péchés. Vous avez une entrée dans la présence de Dieu, le Père, par le sang de Jésus, c'est-à-dire par le sacrifice de ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire. Vous pouvez entrer, vous pouvez dire, Papa, Père, Dieu, je t'aime parce que tu m'aimes. Amen. J'ai grandi dans un foyer où mes parents n'étaient pas chrétiens. Bon, ils n'étaient pas. Enfin, tout le monde, je suppose, du coin se disait chrétien, mais c'était rare vraiment que vous trouviez quelqu'un qui était vraiment engagé pour le Seigneur. Mais à peu près 10 kilomètres plus loin était ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, quand maman avait à peu près 19 ans, grand-mère est venu au Seigneur. Non, c'est pas assez fort. Grand-mère est venu au Seigneur! Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur. Mais grand-mère, elle est venue au Seigneur! Des fois, c'était un peu trop. Mais quand même, oh là là. Et maman, oh là là. Mais maman, elle avait des problèmes de nerfs assez forts. Et ça tombait sur nous, les enfants. Ça criait beaucoup. Des fois, pour moi, des punitions, c'était exagéré. Maintenant, je dirais que c'est exagéré. Et dans notre maison, il y a souvent une ambiance qui n'était pas si beau que ça. Mais chez grand-mère, c'était comme une petite endroit de ciel sur terre. Parce que grand-mère, j'ai jamais connu une personne avant ou après comme mamie. Je l'appelais Maman Delaney. Et Maman Delaney, c'était quand j'avais 3 ans, elle disait à mes parents, tu emmènes David chez moi, et moi je vais l'emmener à l'église. L'église était encore quoi, 20 km de chez elle à peu près, mais ils étaient là tous les dimanches. Et elle dit, Maman, Papa, tu emmènes David, et je l'emmène à l'église. Alors, si grand-mère le disait, vous le faisiez. Parce qu'autrement, elle allait prier et vous allez le faire quand même. Alors pour gagner un peu de temps, il fallait le faire. Et pendant des années, on allait à l'église, à l'assemblée de Dieu, chaque dimanche dans la ville de Nashville, en Arkansas, pas le Tennessee, mais en Arkansas. Et là, j'entendais l'évangile. Et dans la voiture... Ah là là, j'étais un enfant comme les autres. Je me souviens d'être dans la voiture et ma grand-mère me dit, David, est-ce que tu as lavé derrière les oreilles? Alors, vous, les mamans, attention, vous avez des petits-enfants, attention. Parce qu'un garçon, vous pouvez le tuer si tu frottes trop fort derrière l'oreille. C'est très sensible là. Mais j'ai dit oui, grand-mère, je l'ai fait. Mais elle regarde derrière et elle trouvait toujours quelque chose. Elle avait les yeux qui voyaient comme un microscope presque. Alors, j'étais bien, n'est-ce pas, dans la voiture, elle n'avait pas de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait, les sœurs? Vous avez torturé les enfants, vous. Hein? Je détestais cela. Mais vous savez, j'étais là, et puis chez grand-mère, combien de fois? Le dimanche après-midi, il y avait un match de football américain à la télévision. Et puis, grand-père, il regardait le match, et puis il sortait pour se dégourdir les jambes ou quelque chose comme ça. Et grand-mère profitait pour aller dans la chambre coucher et pour prier, pour préparer son cœur pour la réunion de soir. Et mes amis, si je me calme maintenant, presque 70 ans plus tard, j'entends la voix de grand-mère qui prie dans cette chambre coucher. Ça a marqué mon esprit. Ça a marqué mon esprit. Et il venait le jour quand j'avais 7 ans. Je me suis approché au devant et j'ai dit au Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur, sauve-moi. Et il l'a fait. Je l'ai compris comme un enfant de 7 ans. Je crois que le Seigneur, il a un peu approfondi la connaissance de ce que j'ai fait. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il me sauvait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui sauve. C'est un héros qui sauve. Pour moi, c'est un héros à la croix. Quelqu'un de courageux. Quelque chose. Parce que Jésus n'était pas seulement en train de mourir à la croix. Oui, il l'a fait. Mais c'est un combat. Parce que quand il a crié à la fin, en anglais, de ses dernières paroles, c'était « It is finished !» C'est fini. Et moi, je me dis, oui, c'est bien ça. Mais j'ai toujours compris, oh, il dit ça. C'est pas... En grec, le mot qu'il a dit, c'était quelque chose comme tetelestre, qui était un mot qu'on utilisait quand on rachetait quelque chose. Et quand le vente a été fait, on se serrait la main pour dire, oui, c'est accompli. En français, je crois que c'est accompli. Et ça, c'est encore mieux que c'est fini. Parce que, mes amis, Jésus a dit, la victoire a été gagnée. Alléluia. Tu as été sauvé, le chemin du salut a été ouvert à cause de ce que Jésus a fait à la croix. C'était accompli et c'est accompli. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui sauve. Et maintenant, quand vous venez au Seigneur, et vous lui demandez pardon sérieusement pour vos péchés, vous vous repentez, vous changez le chemin si vous voulez, vous dites, moi maintenant je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes chéri, super chéri si vous voulez, par le Seigneur, plus que chéri je veux dire. Il a dit, il fera de toi sa plus grande joie. Sa plus grande joie. Quand j'ai demandé à qui avait des enfants qui étaient parfaits, c'était ma soeur là-bas, elle ne pouvait pas empêcher. Moi, j'ai des enfants parfaits. J'imagine si on parlait, il y avait peut-être quelques petites imperfections qui ressortent des fois, mais pour le moment, c'est parfait, n'est-ce pas? Pour Dieu, nous sommes parfaits. Je me souviens de la sœur France, elle a parlé de mon fils Charles. Quand il était ado, c'était un bon joueur de basket. Et moi, j'étais là dans les gradins pour crier mon soutien et pour aider les arbitres quand ils ont mal fait. Et ma femme m'a dit, David, c'est un mauvais témoignage. Elle a dit, c'est pas méchant, j'essaie de les aider. Parce que si je ne le dis pas, ils ne sauront pas. Mais à la fin, je crois qu'elle avait raison. Il fallait se taire. Mais oh, quand tu as un enfant un enfant de 14 ans qui joue de le hockey ou bien le football ou le basket, c'est comme le dernier match de Coupe du Monde. C'est sérieux parce que c'est ton enfant. Et je me souviens, on jouait contre une équipe là une fois et le supporter était de ce côté-là, nous étions juste à côté. Et au début du match, notre équipe était là et tout d'un coup, Charles en basket, il a fait une tir en suspension de beauté, de pointe. Et j'entendais un parent de l'autre équipe là, il dit, oh là là, il va falloir conserver celui-là, il est fort. Et papa de l'autre côté. Je voulais faire un annonce sur l'autre parleur, c'est le fils de David Porter qui a fait ça. Mais est-ce que vous croyez que Dieu nous regarde avec une fierté positive, parce que je crois qu'il y a une fierté positive, dans son cœur en disant, regarde mon enfant, regarde mon enfant. Je me souviens, on était à Albertville en France, là, dans les montagnes pour apprendre le français. Et là, notre petit appartement, c'était sur le côté d'une montagne, et les enfants étaient petits. Et je me souviens d'une fois, ma fille, elle devait avoir 6 ou 7 ans. Alors, je suis allé dans la chambre avant de me coucher moi-même pour être sûr que les enfants étaient bien. Eh bien, vous devez être dans les Alpes une fois, c'est incroyable. Mais la lumière de la lune est passée par la fenêtre et je voyais le visage de ma fille qui dormait. Et papa, je dois vous dire quelque chose. Son papa, moi, j'ai fondu en moi. J'ai dit, oh, j'aime cette fille. J'aurais dit la même chose de mes garçons. J'aime ce garçon. Plus que je m'aime moi-même. Et je me demande des fois, mon ami, mon frère, ma soeur, si pendant que tu dors, même si tu ronfles, le Seigneur ne te regarde pas. Il dit, oh là là, c'est mon fils, ma fille, c'est mon fils. Comme je les aime. Parce que moi, en tant qu'être humain qui connaît le Seigneur, mais qui a un petit amour à ma capacité, combien un Dieu qui a un amour qui est aussi grand que l'univers, combien il nous aime. Et vous êtes venus aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui disent, oui, j'aime Dieu, mais est-ce qu'il peut m'aimer? Parce que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas l'auteur, je suis, ou bien le diable, il est toujours sur votre épaule, en murmurant dans votre oreille, mais Dieu, comment il peut vous aimer? Parce que vous avez eu cette pensée, vous avez dit ça, vous avez fait, et tout le temps, il est en train de vous frapper avec ses accusations. Je suis ici, je crois, de la part de Dieu pour vous dire, le Seigneur vous aime, d'un amour éternel. Il vous aime plus que vous ne pouvez imaginer. Il vous aime. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Alors, la traduction de ça, de l'hébreu, c'est difficile. Et on voit plusieurs façons de traduire parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Je crois que le Seigneur voulait nous dire plusieurs choses dans une seule phrase. Alors, on a plusieurs traductions. L'un disait, un commentateur dit, peut-être il garde le silence sur nos péchés. Mais je ne crois pas que c'est ça. Il y en a un autre qui dit, dans son amour, il nous calmera. Et ça nous donne l'idée de l'enfant qui pleure, et le papa, le moment qui le prend dans les bras pour le calmer. Un autre dit, il gardera le silence dans son amour. Il dit, les gens, quand ils sont amoureux, ils peuvent se regarder dans les yeux sans rien dire. Et là, ça passe le courant. Et peut-être c'est comme ça avec Dieu et moi. Combien de vous, les hommes, vous passez quelques heures chaque jour en regardant dans les yeux de votre femme, en rien disant? Bon, ce n'est pas vous qui dites, c'est elle qui dit beaucoup, mais quand même, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Mais là, il y a quelque chose entre nous. Il y a quelque chose entre nous. Et puis, il dit, comme j'ai dit au début, il aura pour toi des transports d'allégresse. Et encore ici, il est difficile parce que vous trouvez toutes sortes de traductions de cela. L'idée, c'est, comme il fera beaucoup de bruit, il va faire une petite célébration à cause de toi. La plupart des versions anglaises disent, dans son amour, il chantera pour toi. Alors, si tu chantes pour quelqu'un, tu les aimes bien, n'est-ce pas? Encore, vous les femmes, combien de vous, vos maris, ils chantent pour vous? Laisse-moi voir la main. Votre mari chante. Oh, il chante pour vous. Oh, mon frère, vous avez une étoile. Vous, vraiment, un bon exemple pour tout. Vous voulez le faire maintenant? Non, OK. Ouais. Je chante pour moi, ma femme aussi. I got sunshine on a cloudy day. Et elle dit, arrête. Des fois, l'amour, c'est quand tu ne chantes pas. Hein? Mais est-ce que vous pouvez imaginer que dans ces moments de louange, d'adoration, des fois, si on se tait, peut-être dans notre esprit, on entendra la voix du Seigneur qui chante pour nous? Parce qu'il y a un autre endroit. L'idée de Dieu qui chante, c'est bizarre. Mais il y a un autre endroit qui dit, il nous entoure avec des chants de victoire. Waouh! Et là, pour nous, ce n'est pas notre idée de Dieu. Comme tu dis, pour nous, Dieu, c'est le vieillard avec la barbe blanche. Et Dieu qui chante, et surtout qui chante son amour. Mais ici, on peut aussi interpréter, il danse. Dans notre église à Paris, là, on avait beaucoup, beaucoup de frères et sœurs d'origine africaine, peut-être 80% africains ou antillais, et ils savent vraiment se réjouir dans le Seigneur avec les chants, avec les danses. Et ils ont essayé de m'enseigner à danser. Et je commence et ils rigolent. Alors, je dis, attends. Et je dis, écoute, c'est sans espoir. Moi, je danse comme un vieux blanc et ça, c'est pas beau. Hein? Mais peut-être, Dieu, je sais qu'on est pentecôtiste et on est censé de ne pas danser, mais enfin, Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il paraît ici, il fait une célébration, il fait la fête, il chante, il crie de joie à cause de toi. Tu dis, nous, oui, c'est nous, mais aussi à cause de toi. Si tu savais, toi, à quel point que le Seigneur t'aime, ça changera ta vie. Moi, je n'ai jamais arrivé de comprendre toute la plénitude de l'amour du Seigneur. Il m'aime, il t'aime. Et je crois, plus tu connais son amour, plus ta vie change. Parce que un frère, il a dit quelque chose l'autre soir dans le séminaire qui m'a beaucoup marqué. Parce que je crois que c'est vrai, il parle de l'amour. Il parle de Pierre et Jean, les disciples du Seigneur. Et Pierre, c'était un grand apôtre, un homme de Dieu. Mais Pierre, il aimait le Seigneur. Il a tout fait pour montrer son amour. Mais quand le moment difficile est venu, Pierre a renié le Seigneur. Tandis que John, si tu regardes, je crois que deux fois, John se décrit comme l'apôtre ou bien le disciple que Jésus aimait. Il dit, Pierre aimait Jésus, mais Jésus aimait John. Alors, bien sûr, Jésus aimait Pierre aussi. Mais Jean avait une relation particulière de l'amour du Seigneur. Et quand le moment est venu, John n'a jamais renié le Seigneur. Bon, il s'est enfui au début, mais puis il est revenu. Il était là à la croix, devant la croix, en regardant aussi. Et je me dis, c'est ça, parce que nous aimons Dieu, nous sommes nés de nouveau. Premier commandement, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ce que tu es, et aimer ton voisin comme toi-même. On aime le Seigneur, mais peut-être encore plus que ça. Ça, c'est de notre côté. Mais de côté de Dieu, Dieu nous aime. Et quand tu réalises que tu es déjà aimé, ce n'est pas que tu vas être aimé, mais tu es déjà aimé, ça changera ta vie. Laisse le Saint-Esprit mettre cela dans ton cœur et dans ta pensée. Tu es aimé. Il est beaucoup, beaucoup plus facile d'éviter le péché quand tu réalises que tu es aimé. Oui, on a peur de Dieu, il faut craindre Dieu. Le crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est pas la fin de la sagesse. Pour moi, la crainte de Dieu, c'est la portière. Ça, c'est moi, peut-être j'ai tort. Mais je crois que la crainte de Dieu, c'est la portière. Il dit, répondez-vous. Il est là près de la porte. Et nous passons, il dit, il crie, répondez-vous, répondez-vous. Venez à Dieu, venez à Dieu. Mais si vous entrez par la porte dans le royaume de Dieu, restez pas près de la porte. Parce que si vous n'avez pas que de la crainte, si vous n'avez que de la crainte pour vous garder dans le royaume de Dieu, vous êtes tout près de la porte. Mais plus vous avancez, plus vous avancez dans son amour. Et il arrive un moment où le péché est là, et vous êtes toujours tenté. Mais tu dis, oh là là, je ne peux pas faire ça à mon Seigneur. Je ne peux pas faire ça à mon Seigneur. Et tu évites le péché, pas seulement parce que tu as peur, mais tu évites le péché parce que tu aimes celui qui t'aime tellement. Tu vois? Il promet d'agir. Bon, ce n'est pas encore 15 ans, mais c'est le dernier point. Comme j'ai dit hier, il y a 15 sous-points sur le dernier point. Mais quand même, j'ai dit ça, tout le monde dit, ah, les visiteurs, quand le pasteur dit, et pour mon dernier point, et le visiteur, il dit, oh là là, il a presque fini. Et les chrétiens disent, oh non, 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 c'est pas vrai, c'est le mensonge du pasteur. C'est le dernier point, mais ce dernier point, premier point, c'est 5 minutes, deuxième point, c'est 10 minutes, et le dernier point, c'est infinité, hein, c'est comme ça, mais il promet d'agir dans notre vie. Il nous aime, il agit. Je vous ramènerai. Vous serez un sujet de gloire. Et dans son amour, il dit, vous étiez comme ça, vous étiez chassé de votre pays, vous étiez dans l'esclavage, mais je vous ramène. Et vous, au lieu d'être dans la honte, vous aurez la gloire de Dieu qui reste sur vous. Il y a une jeune sœur que j'apprécie beaucoup. Et quand c'est le fils de celui qui était mon meilleur ami en France. Et là, la fille de celui qui était mon meilleur ami. Et c'est une fille qui aimait beaucoup le Seigneur. Elle avait un petit copain. Et à un certain moment, ils sont tombés dans le péché. Et elle est devenue enceinte. Et elle... c'était pas qu'elle avait honte, c'était plus que ça. Elle avait mal. Parce qu'elle a dit, oh Seigneur, c'est pas seulement ce qui m'arrive, mais j'ai péché contre toi. Et quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a demandé, je veux parler avec les membres de l'église, je veux m'excuser. J'ai jamais vu, mais c'était d'elle-même. Elle a dit, j'aimerais bien parler avec les membres. Et puis toute l'église est venue, et les membres. Et puis elle s'est excusée, elle a demandé pardon à l'église comme ça pour cela. Et moi j'étais là. Ils ne savaient pas comment aller répondre à l'église. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont embrassé, ils l'ont pris dans les accolades, ont pris dans les bras, beaucoup, beaucoup de larmes. Mais c'est une fille qui a dit, ok, j'ai péché, mais maintenant je me suis repenti et je vais faire comme il faut. Alors le garçon, mais elle élève l'enfant comme il fallait. Mais pour le Seigneur, il s'engage pour le Seigneur. Au même moment, il y avait un homme dans l'église, un jeune homme qui, avant ça, il n'a jamais fait trop attention à la fille, mais il a été attiré, touché par ce qu'elle a fait, comment elle a fait, et ils se sont mariés. Et il faut dire que le fruit de ce mariage était excellent. À un moment donné, des années plus tard, je vois la jeune fille mature, l'enfant qui a grandi, le Seigneur lui a donné un autre enfant. Mais elle dirigeait le choral dans l'église, mais d'une manière pas seulement « Ah, toi, la gloire !» Mais vraiment, il avait une force. Là, ils se sont déplacés pour chanter dans d'autres endroits. Il y avait un restaurant là qui les a invités de chanter pour les clients du restaurant. Et ils ont proclamé l'évangile. Il y avait même des églises catholiques qui les ont permis de chanter l'évangile, et annoncer l'évangile, les maisons de retraite et toutes sortes de choses. Mais je me suis dit, Seigneur, c'est incroyable. Elle aurait pu dire, oh, j'ai péché, moi j'oublie Dieu, j'oublie tout ça, et je vais. Mais elle s'est repentie, elle est revenue, elle trouvait que Dieu n'avait jamais arrêté de l'aimer. Et la gloire du Seigneur s'est reposée sur elle, et lui, il l'a utilisée pour amener les autres au Seigneur. Église d'Edmundston, je suis vraiment dans l'admiration quand je vois ce que le Seigneur a fait ici. J'ai entendu un peu du frère Luc Poirier comment cette église était, je crois, la première dans la région quand le réveil a éclaté dans les années 80. C'était vraiment ici que la première église. Et je me dis, oh Seigneur, c'est merveilleux, c'est glorieux. Église d'Edmundston, je crois que vous avez une place spéciale devant le Seigneur. Mais vous savez quoi? Moi, je me rends compte, quand je me regarde dans le miroir, dans ma tête, j'ai 40 ans, mais sur ma tête, j'ai 74 ans. Et je ne serai pas ici éternellement. Ces jours-ci, je pense beaucoup à mes enfants, mes petits-enfants, ce qui se passera après. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, si le monde tient toujours dans 1000 générations, dans 1000 ans, je veux que mes descendants soient là en train de te suivre. Et j'ai dit ça sérieusement. Mais j'ai 9 petits-enfants, j'ai prié pour eux encore et encore et encore. J'essaie de toutes mes forces d'être l'exemple à mes petits-enfants et à mes enfants. Naturel et pas mariage. Je veux vraiment qu'ils viennent au Seigneur. Mais l'église de Edmundston, il faut aussi que vous pensez spirituellement à vos enfants, vos petits-enfants. Je ne sais pas quelle est la population de cette ville, mais elle a besoin de Jésus. Et nous, cheveux blancs, nous ne serons pas ici éternellement. Il faut que nous redoublons la prière, parce que la chose qui est précieuse de l'amour de Dieu, c'est quand nous réalisons combien nous sommes aimés. Nous pouvons aimer les autres comme ça. avec l'amour de Dieu. Et quand nous réalisons et nous aimons, nous regardons autour de nous et nous commençons de prier, Seigneur, s'il te plaît, mes voisins, Seigneur, ma famille, Seigneur, les autres dans la ville, Seigneur, cette région a tellement besoin d'un réveil. Ils ont tellement besoin de connaître cet amour du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mes amis, vous qui avez connu le réveil, on connaît maintenant la responsabilité devant le Seigneur. Le Seigneur nous a donné beaucoup. Et moi, je suis étonné quand je vois des personnes qui ont suivi le Seigneur maintenant 40, 50 ans. Gloire à Dieu! Mais avec cette grâce que le Seigneur nous a donnée, il y a aussi une responsabilité de voir autour de nous et de se mettre à genoux et dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous nos enfants, donne-nous nos petits-enfants, donne-nous cette ville, notre voisin, parce que tu aimes cette ville et les gens de cette ville autant que tu nous aimes, nous. Oh, enfants de réveil, prie que le Seigneur nous donne un réveil aujourd'hui. Aux États-Unis, 10 ans avant cela, il y avait aussi un réveil pareil. En France, quelques-uns de mes meilleurs amis ont été nés de nouveau dans un réveil pareil de ce que vous aviez ici au début, parce que Dieu voulait faire quelque chose. Mais mes amis, on a besoin d'un souffle nouveau de Jésus, pas seulement de la religion, mais de cette force qui nous a emmenés dans la présence de Dieu, qui nous a sauvés là au début, que ça agit de nouveau en nous, plus puissamment, parce que le boulot c'est plus grand que jamais, et nous avons une responsabilité d'apporter cet amour à ceux qui sont autour. Moi je ne peux pas toute seule, toi tu ne peux pas toute seule, tu as besoin du Seigneur. C'est de renouveler nous. Donne-nous une révélation de ton amour. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. On n'a pas mérité l'amour. On ne le mérite pas toujours. Seulement, on le mérite en Jésus. Parce que c'est lui qui le mérite et nous sommes en lui. Seigneur, s'il te plaît, parle nos cœurs. Parle mon cœur. Seigneur, je trouve qu'il est tellement facile pour moi d'être satisfait dans ma vie spirituelle, de faire ce que j'ai fait depuis très longtemps maintenant. Seigneur, s'il te plaît, les temps sont difficiles, les temps sont dangereux. Seigneur, on a besoin d'une révélation de l'amour de Dieu dans ce monde comme jamais auparavant. Utilise-nous, Seigneur. Utilise cette précieuse Église. Ces personnes qui ont été fidèles depuis tellement longtemps, Seigneur, utilise cette église, bouleverse cette région par ton amour. Restons dans la prière. J'ai fait très vite, mais j'aimerais bien parler à trois personnes. D'abord, si vous êtes ici, vous n'avez pas une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, mais vous aimeriez bien dire tout simplement, David, prie pour moi. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras ou rien de tout. Mais dites, David, je ne suis pas en train de servir le Seigneur. Mais oh là là, j'aimerais bien venir au Seigneur, avoir sa vie. Lèvez la main, retirez-la après. Et quand je prie cette semaine, je vais prier pour vous. Est-ce que vous ne regardez pas autour? Ben, c'est un moment un peu privé, ok? Mais dites, David, priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi, s'il vous plaît. Ok? Amen. Vous êtes ici aussi et vous dites, David, je suis le Seigneur. Je suis né de nouveau. Mais j'avoue que des fois, je ne sais pas comment il peut m'aimer. Et j'ai mal à reconnaître l'amour de Dieu dans ma vie. Je sais que c'est vrai, intellectuellement. Mais au niveau plus profond que cela, j'ai mal à le réaliser. Prie pour moi parce que je veux vraiment avoir cette révélation de combien il m'aime. Est-ce que vous pouvez lever la main? Dis prie pour amen, merci, merci, amen, 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 amen. Et troisièmement, David. Oh là là, David, je veux. je veux vraiment que cette région, les gens de cette région, que ma famille vienne au Seigneur. Je veux être un témoin, mais j'ai encore besoin d'être encore plus rempli de l'Esprit de Dieu, que son amour agit en moi. Aide-moi, Seigneur, de toucher les gens autour de moi pour Jésus. Est-ce que ça, c'est vous? Levez la main, vous aussi. Alors, Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois nos cœurs. Je te remercie pour mes frères, mes sœurs qui sont précieux. Seigneur, vraiment, je ressens quelque chose de bien ici. Mais Seigneur, maintenant, ton Église a un boulot tellement grand. L'ennemi, il sort de sa cachette. Il fait des choses, on voit des choses qu'on n'aurait jamais cru voir. Mais Seigneur, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Seigneur, nous avons ta promesse là. Si le diable a un réveil, tu nous promets un réveil beaucoup plus grand. S'il te plaît, répands ton amour sur nous. Donne-nous un cœur, une pensée, un esprit qui est sensible à ce que tu fais. Remplis-nous de nouveau de ton esprit. Seigneur, qu'il y ait un réveil à Edmundston qui éclate dans toute la région. Seigneur, que nous te connaissons plus que jamais auparavant et dans ton amour, que ton nom soit loué. Merci, Seigneur.